OK, on va continuer notre série sur l'étude des différents livres de la Bible, l'étude sommaire, bien entendu. Quand on fait une étude comme ça sur un livre, c'est plus un survol qu'une étude réellement du livre comme tel. Mais c'est très utile parfois de faire cette étude-là. Et particulièrement, je dirais, de la reviser lorsqu'on est en train de lire le livre de Nombre. Alors, on avait pris dans les leçons précédentes une façon de fonctionner pour regarder l'ensemble du livre. On procédait toujours avec la même structure. On a regardé l'arrière-plan du livre et chaque livre a un but principal et un plan aussi. Et chaque livre aussi a des thèmes majeurs, des personnages clés en général, des versets clés. Et des leçons pour le peuple de Dieu d'alors et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et on voit aussi à l'intérieur de chaque livre comment Jésus-Christ est intégré à l'intérieur de chaque livre, la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, comme première idée, la présentation générale du livre de Nombre, c'est le livre des errances d'Israël. Tout ça intéressant parce que quand on regarde le livre de Nombre en général, ce qu'on voit, c'est les problèmes du peuple de Dieu en marche pour s'en aller vers la terre. Ça aurait dû prendre juste quelques jours, ça a pris 40 ans. Pas pour rien, on appelle ça les errances, parce qu'ils ont erré dans le désert. Les leçons que le Seigneur veut nous montrer, nous, on est dans le désert, si on compare à notre marche pour s'en aller au ciel. Alors, les leçons du livre qui sont contenues dans le livre de Nombre pour nous enseigner des choses sont très nombreuses pour qu'on apprenne des choses sur comment se comporter dans notre marche. Alors, la plus grande partie du livre décrit les expériences d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Israël est encore une nation dans son enfance au début du livre. Et l'action se situe seulement 13 mois après la sortie d'Égypte. Autrement dit, ils ont sorti d'Égypte, ça a pris, c'est rien qu'un an après, un an et un mois après, qu'on voit toutes les choses qui sont décrites dans ce livre-là. Alors, dans le livre, la nation va expérimenter douloureusement le processus de l'épreuve et de la maturation. Moi, je trouve que ça ressemble drôlement à notre marche quotidienne vers le ciel. Il y a énormément de leçons que le peuple de Dieu a appris dans le livre de Nombre, qui s'applique encore à nous aujourd'hui, de nos jours. Alors, Dieu va leur enseigner les conséquences de la rébellion et des décisions irresponsables. Ces 40 années dans le désert vont les transformer d'ex-esclaves à une nation préparée à prendre possession de la terre promise. N'est-ce pas ce que l'on est, des ex-esclaves? Et que Dieu nous prépare pour rentrer dans le ciel. Pour eux, c'est la terre promise, pour nous, c'est le ciel. Alors, concernant le nom du livre, en hébreu, c'est Bemidbar, qui signifie dans le désert, tout simplement. Et le nom grec, c'est Arithmoi, venant de la version grecque de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Septante, là, qui signifie nombre. Alors, la signification, pourquoi on appelle le livre Nombre aujourd'hui, c'est à cause de la version grecque des Juifs. Alors, ce dernier nom fut ensuite transporté dans la version latine, qu'on appelle la Vulgate, sous le nom de la Liber Numeri, qui se traduit le livre des nombres. Alors, le livre comporte deux dénombrements, celui de l'ancienne génération, au chapitre 1, et celui de la nouvelle génération au chapitre 26. Alors, on va voir que Dieu, avec l'ancienne génération, il va les faire tourner dans le désert à 40 ans. Alors, ça aura pu, normalement, ça aurait dû leur prendre juste quelques jours pour se rendre dans la terre promise. Pas des farces, hein? Quelques jours. Et le Seigneur, à cause de leur péché, il va les faire tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. C'est très significatif comme image, comme leçon spirituelle que le Seigneur veut nous donner. Alors, on va commencer par regarder l'arrière-plan. Bien entendu, comme dans tous les autres livres, les auteurs, souvent, quand vous allez prendre un livre, un commentaire sur le livre de Nombre, là, il y en a des fois qui ont 15 ou 20 pages pour dire que c'est pas Moïse, que c'est un autre. Mais presque tous les livres de la Bible, ils ont cette maladie-là des moi j'appelle ça des faux savants, là. Ils cherchent à voir dans les livres que ce qui n'est pas là, pour montrer qu'eux autres, ils ont découvert des choses que personne n'avait vues avant eux autres, là. Alors, l'auteur, moi, je suis convaincu, c'est Moïse. Alors, le livre ne mentionne pas l'auteur, mais la tradition juive et chrétienne croit que Moïse en est l'auteur, comme les quatre autres livres de la Pentateuque. Pentateuque, c'est tout simplement les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La date auquel le livre aurait été écrit, Moïse aurait écrit le livre et le reste de la Pentateuque entre 1446 avant Jésus-Christ, la date possible de l'Exode, et 1406 avant Jésus-Christ aussi, date possible de Moïse. Alors, quand on parle des dates, souvent dans l'Ancien Testament, c'est pas toujours coulé en ciment, il n'y a pas rien dans le livre lui-même qui détermine la date. Souvent, c'est des relations que les auteurs font avec ce qui a été dit dans un autre livre. C'est pas des choses qui sont toujours mentionnées. Des fois, c'est mentionné, telle année, de tel roi, telle affaire, mais c'est pas tout le temps comme ça. Alors, le cadre géographique, pour savoir un peu où que ça s'est passé. Alors, après que le peuple a été recensé pour la première fois, comme on voit les hommes, Dieu a recensé les hommes pour ceux qui étaient aptes au service militaire. On a ça dans le chapitre 1. Ils laissent le mont Sinaï pour se diriger vers la terre promise. Ils campèrent dans le désert de Paran jusqu'à Kadesh-Barnéa. Mais parce qu'ils choisirent, autrement dit, l'ancienne génération a choisi de ne pas avoir foi dans les promesses de Dieu. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et le Seigneur n'a pas permis qu'ils rentrent dans la terre promise. Il a dit juste la nouvelle génération va rentrer. Alors, ils n'ont pas cru les promesses de Dieu. Y a-t-il un péché plus grave que ça? Pas croire les promesses de Dieu. Alors, ce fut la nouvelle génération qui reprit le voyage vers Canaan sous la direction d'un nouveau chef, Josué, qui est encore très intéressant qu'on le transpose dans le domaine du Nouveau Testament, parce que Josué, c'est Yahushua. Puis Jésus, en hébreu, c'est Yahushua. Alors, le peuple, ceux qui n'ont pas tourné dans le désert, Yahushua, c'est lui qui les a fait rentrer dans la terre promise, autrement dit Josué. Très significatif aussi quand on regarde ça. Et il leur a donné un nouveau chef, il leur a donné aussi des nouvelles instructions. Ceux qui ont les notes, vous avez à la page 3 un genre de dessin qui décrit le trajet qu'ils ont fait. Parce que quand vous lisez dans le livre de Nombre, ça dit qu'ils sont partis, disons, à Ramsès, ils sont passés par Sukkot. Et vous avez tous les petits numéros là, qui vous donnent comment ils ont tourné en rond jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment où Josué, lui, a fait le travail de les faire rentrer dans la terre promise. Ça, faut regarder ça en détail. Quand vous lisez le livre et qu'ils disent qu'ils sont partis de telle place, sont allés à telle autre place. Et ce qui est très intéressant, qu'on ne prend pas souvent le temps de faire, c'est d'aller voir la signification des noms. Parce que dans l'hébreu, il y a des noms, comme disons qu'on prendrait, là, je sais pas moi, Mara, Réphidim. Souvent, on lit le livre, on passe par-dessus. Mais si tu vas dans un dictionnaire biblique, puis tu vas fouiller dans Réphidim, tu vas fouiller dans toutes ces affaires-là, tu vas te rendre compte que les noms sont significatifs et symboliques de l'action qui s'est passée dans cette région-là. C'est là où on voit la sagesse divine dans tout ça, là. Quand quelqu'un se donne la peine d'étudier les Écritures en allant fouiller dans des livres, il est toujours profondément béni. Ça, c'est un fait, là. Alors, le but principal du livre. Le but principal du livre, c'est une histoire de rébellion et de désobéissance du peuple de Dieu. Ce qui rend le livre intéressant pour nous, aujourd'hui, à étudier le livre de Nombre, c'est de regarder comment Dieu traite avec le peuple quand il est désobéissant et quand il est dans la rébellion. On en a-tu encore un petit peu dans nos jours, dans les églises, la rébellion puis de la désobéissance? Ben, regardons comment Dieu a traité son peuple dans ce temps-là, Puis on va voir comment ils continuent à nous traiter de la même façon aujourd'hui. Il y a plein de leçons là-dedans. Les Écritures nous disent que les livres de l'Ancien Testament nous ont été donnés pour deux choses, notre instruction et pour nous...
Servir d'exemple.
Alors c'est ça, servir d'exemple, autrement dit, le Seigneur te donne une histoire pour te donner un exemple de qu'est-ce qui arrive quand tu agis de telle façon. Alors, le livre raconte les années du peuple de Dieu voyageant dans le désert comme une armée se dirigeant vers la terre promise. Même lorsque le peuple murmura et se rébella, la grâce de Dieu prévalut. Très intéressant aussi de constater que même quand on est dans notre pire, quand Dieu nous a vraiment choisi, qu'il nous a fait la grâce, il ne nous abandonne jamais. On apprend une caractéristique de Dieu qui est très consolante pour nous aujourd'hui aussi. Alors, le peuple de Dieu fut sévèrement puni. Quand on prend le livre de Nombre et qu'on analyserait toutes les situations dans lesquelles ils ont passé, on se rendrait compte que Dieu est sévère aussi. Dieu est bon, Dieu est gracieux, mais Dieu est aussi sévère. Alors, Dieu ne les a pas détruits, mais il a fait une extension de sa grâce à la génération suivante. Ceux qui ont été désobéissants, il a fait qu'ils ont tourné dans le désert, ils n'ont pas rentré dans la terre promise, ils sont morts dans le désert. Tandis que la deuxième génération, Dieu a fait une extension de sa grâce qui a permis que la deuxième génération. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12, est très important pour nous rappeler que le Nouveau Testament parle du livre de Nombre. Alors, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12, ça dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Quand on lit le livre de Nombre la première fois, le rocher, frappé sur le rocher, est-ce qu'on fait le lien direct que c'est Christ, on parlait de Christ quand on parle du rocher? Ici, c'est le Nouveau Testament qui interprète l'Ancien. Parce que ça dit bien, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6 est très important. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens? C'est qu'il n'y a pas grande différence entre vous autres aujourd'hui et eux dans le temps. Vous êtes pareils. C'est ça qu'il dit. Il dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Alors là, on voit les problèmes qu'ils ont eus quand ils étaient dans le désert. Ne devenez point idolâtres. On pourrait faire des centaines de sermons de nos jours sur l'idolâtrie et ces innombrables formes qu'ils peuvent prendre dans nos vies. Ils étaient idolâtres, le Seigneur les a punis. Si on est idolâtre, puis je suis certain qu'il y en a d'idolâtrie dans nos vies, le Seigneur va nous corriger aussi. Des fois, ça demande comment ça fait qu'on a des problèmes. Parce que peut-être qu'il y a un peu trop d'idolâtrie dans nos vies. Peut-être, je ne sais pas. Là. Elle dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez-vous? Manger, boire, se divertir. On n'est plus dans les choses de Dieu. Là. Manger, boire, se divertir. On est dans notre plaisir personnel. Et le Seigneur dit, après ça, il dit le verset 8, « Ne nous livrons point à l'impudicité. » C'est quoi l'impudicité? Tous les péchés de nature sexuelle. « Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là, mais 23 000 en un seul jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans la désobéissance, ils étaient dans l'immoralité sexuelle, et le Seigneur les a jugés sévèrement. Tuer 23 000 personnes d'une shot, là, c'est sévère. Là. Alors, il est en train de leur montrer, faites attention à ce péché-là d'une façon particulière. Après ça, dans le verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Vous vous souvenez de ce passage-là? « Tenter le Seigneur, on le fait encore aujourd'hui. » Et le verset 10, ça, on le fait tous à tour de bras, presque tout le monde aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, je parle par expérience. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, puis je peux vous garantir une chose, il n'y a rien que j'ai plus entendu dans ma vie que dans les églises, les gens murmurent continuellement. Pourtant, il nous dit bien ici, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » C'est sévère. Et le verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Si on lit le livre de Nombre, puis on ne se rend pas compte que c'est un exemple que le Seigneur veut nous donner, puis qu'il y a une instruction pour nous aujourd'hui, autrement dit, on ne retire aucun bienfait de ce livre-là. C'est ça la réalité. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et si donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Alors, on a le plan du livre, c'est des petits plans très rapides, mais qui donnent quand même les grandes divisions du livre. Alors, vous avez le chapitre 1 à 14, on va parler surtout de l'ancienne génération. Celui que le Seigneur a sauvé d'Égypte, il avait se fait sortir d'Égypte. C'est surtout cette génération-là dont on va parler dans les 14 premiers chapitres. Ils vont avoir une multitude de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants, puis parce qu'ils sont dans la rébellion. Alors, on va avoir là-dedans, chapitre 1 à 4, le dénombrement. Il va dénombrer, il va compter. Des fois, on va arriver, il va dire, ils étaient 601 550. Et là, il va tout donner les tribus avec les chefs, puis etc. C'est très important. Après ça, il parle de l'instruction. Il va leur donner des instructions sur comment voyager dans le désert. Ensuite, il va leur donner, on va voir le voyage comme tel, où ils vont passer d'une ville à l'autre, où ils vont connaître différentes expériences un petit peu dans toutes les régions. Dans l'ère de transition, celle du milieu au désert, chapitre 15 à 20, c'est vraiment l'errance. Là, ils ont tourné en rond. Le Seigneur a permis qu'ils tournent en rond dans le désert. Et après ça, à partir du chapitre 21, aller jusqu'au chapitre 36, on va avoir la nouvelle génération. Autrement dit, l'ancienne génération, Dieu ne permet pas qu'ils rentrent dans la terre promise, mais c'est la nouvelle génération. Dieu va permettre que ce soit la nouvelle génération. Alors, il va y avoir un nouveau voyage qui va être expliqué du verset 21 à 25, un nouveau dénombrement qui va se faire. C'est ça qu'on appelle le livre des nombres. Premier dénombrement dans les premiers chapitres, deuxième dénombrement dans la deuxième génération. Alors, le nouveau dénombrement, et il va leur donner des nouvelles instructions là, pour rentrer dans la terre promise. Alors, après ça, les thèmes majeurs. Alors, le livre des Nombres parle de deux générations, deux dénombrements, deux voyages. Il illustre la bonté et la sévérité de Dieu et enseigne que le peuple de Dieu ne peut avancer que dans la mesure où il se confie en Dieu et apprend la dépendance. S'il y a quelque chose qui est difficile à apprendre pour les chrétiens, tant dans ce temps-là qu'aujourd'hui, c'est de dépendre de Dieu. Tu manques de nourriture? Ah, tu nous as emmenés dans le désert, tu vas nous faire crever dans le désert, on manque d'eau, plutôt que de s'adresser à Dieu. Ah, ben là, c'est toi, Moïse, c'est ta faute, Moïse. Ça n'a pas changé, ben, on est toujours porté à ne pas dépendre de Dieu, à ne pas se confier pleinement en lui. Peu importe le problème qu'on a, il faut s'habituer à toujours dépendre de Dieu. Et nous, on est plutôt de nature indépendante. On aimerait ça être indépendant. Être dépendant, ça veut dire que tu prends conscience que tu vas rencontrer des problèmes, tu sais que tu n'es pas capable de les régler par toi-même. C'est Dieu seul qui est capable de les régler. Alors, Romains 11, 22 nous rappelle ce principe-là de la bonté et de la sévérité de Dieu. Il dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Les gens sont très, très ouverts à écouter la bonté de Dieu, tout le temps. Mais quand tu lui parles de la sévérité de Dieu, oh, là, ça marche moins. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Le thème du jugement divin sur l'incrédulité occupe beaucoup de place dans le livre des Nombres. Le résultat final de ce jugement est l'errance du peuple dans le désert pendant 40 ans. Le point tournant du livre se trouve au chapitre 14, lorsque le peuple céda à la peur provoquée par le rapport des espions et rejeta de monter et de conquérir le pays de la terre promise. Dieu jugea Israël très sévèrement. Quand on lit dans Nombre 14, versets 34 et 35, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous serez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. » Il y a vraiment beaucoup de choses à s'arrêter et à méditer là-dedans. Des fois, je me suis souvent demandé, est-ce que c'est une image de la chrétienté moderne qui tourne en rond puis qui ne rentre pas vraiment dans la vie spirituelle? J'ai déjà discuté avec 2-3 pasteurs comment eux comprennent ça. C'était très intéressant de voir comment que les gens comprennent ça. Et dans Nombre 14, verset 34, « Selon le nombre des jours que vous avez mis à connaître le pays qui ont été 40 jours, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, et vous connaîtrez que j'ai rompu le cours de mes bénédictions sur vous. » Quelle est la leçon? La désobéissance et la rébellion amènent que Dieu stoppe ses bénédictions. La version Osterwald dans Nombre 14, 34. « D'après le nombre de jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. » Très intéressant de voir la façon dont les différentes versions ont traduit le texte hébreu. Alors, le livre des Nombres nous sert un sérieux avertissement contre l'incrédulité et la désobéissance. Cependant, Dieu demeure fidèle et continue de guider son peuple, comme on peut le voir dans Nombre 10, verset 11, par la colonne de feu et la colonne de nuée, en pourvoyant leurs besoins quotidiens, par la manne et l'eau du rocher, qui préfigure Jésus-Christ, comme on peut le lire dans Jean 6, verset 31-33, et 1 Corinthiens 10, verset 4. Et par la provision du serpent des reins pour ceux qui furent mordus par les serpents venimeux, une image de la crucifixion de Christ sur la croix. Intéressant de voir ça aussi, qu'ils sont tombés dans le désert, ils seraient morts, là. Et le Seigneur les a donné l'image du serpent des reins qu'ils regardaient, que s'ils regardaient, ils étaient guéris de leur morsure mortelle. Alors, c'est vraiment un peu comme l'image du malin, du serpent qui nous aurait... Alors, Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? » Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est Dieu qui leur avait donné, puis il appelait ça de la misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait sa vie. Quand on regarde le Nouveau Testament, Jésus lui-même fait référence à cette partie-là des Écritures. Comme j'ai été élevé le serpent des reins. Alors, on va faire le prochain verset, Jean 3, et on va arrêter là après. Et comme Moïse, dans Jean 3, versets 14 et 15, ça dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, le thème du désert est également important. En plus de raconter la traversée littérale du désert pour se rendre en terre promise, il signifie symboliquement le monde, avec ses dangers de mort, d'infertilité, de chaos et de ténèbres. Il représente tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est le symbole du mal et de l'absence de Dieu. Il représente aussi une place de transition, un endroit pour rencontrer Dieu. Le tabernacle et toutes ses installations avec la présence divine étaient une place de vie, d'espoir et de lumière. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On se terminera la semaine prochaine.